Bonjour à tous. Je vous invite à prier avant de commencer. Seigneur, notre Dieu, nous te louons parce que tu es notre berger. Tu prends soin de nos âmes. Seigneur, merci parce que ton nom est tellement magnifique, Seigneur. Et nous nous réunissons encore cet après-midi pour écouter ta parole. Et comme mon frère l'a dit, Seigneur, nous prions pour que nous puissions être changés, être transformés, Seigneur. Et parce que nous croyons que oui, à travers la conversion, nous avons commencé à être transformés, mais Seigneur, cette transformation, elle continue jusqu'à la fin de notre vie ici sur terre, Seigneur, en attendant de te rejoindre dans le ciel avec toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu me permettes d'avoir des paroles de sagesse pour cet après-midi. Et je te prie aussi que tu puisses guider nos cœurs. Il faut être vraiment à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire par rapport au message d'aujourd'hui. Et je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, si tu peux passer. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux personnes. Donc la personne de gauche, ça vous dit quelque chose? Oui, de Rugy, François de Rugy, tout à fait. Et à droite, Monsieur Balkany. Ouais, très bien, Patrick Balkany. Donc ces derniers jours, ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de ces deux hommes, François de Rugy à gauche et à droite, Patrick Balkany. François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, soupçonné d'avoir organisé des dîners privés aux frais de l'État. Patrick Balkany est le maire de Levallois-Perret, la commune de Levallois-Perret dans le 92, qui est soupçonné de fraude fiscale et de corruption. Donc aujourd'hui, encore, le verdict n'est pas encore rendu, mais s'il s'avère qu'ils sont réellement coupables, on pourra réellement parler du fait que ces hommes, de par leur position puissante, politique, sont responsables d'injustice, de corruption et de profit du riche au détriment du peuple. Et des situations comme ça, on en parle aujourd'hui parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais il y en a des semblables partout dans le monde. Et sachez qu'à l'époque d'Amos, en moins 760, avant Jésus-Christ, la situation n'était pas si différente que ça. Au contraire, l'homme qui est sans Dieu reproduit à chaque fois les mêmes erreurs et les mêmes péchés. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, je replace un peu le contexte. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans une série de prédications textuelles suivies. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à chaque orateur, chaque dimanche, on essaie d'avoir un orateur différent qui va prêcher sur Amos, donc le livre d'Amos. Et aujourd'hui, on est au chapitre 5 de Amos. Amos, sachez que c'est divisé en trois parties. Première partie, chapitre 1 à 3, on parle du jugement de Dieu de toutes les nations. Ensuite, chapitre 4 à 6, on va parler des raisons de ce jugement. Et enfin, 7 à 9, vision du jugement et de restauration. Donc là, on est en plein dans la partie jugement de Dieu, hein, vous avez vu ce qu'on vient de lire. Donc quand on regarde cette carte, on voit en haut le royaume d'Israël et le royaume de Judée en bas. Donc comme j'avais déjà dit quand j'avais prêché sur Amos 1, on appelle royaume d'Israël, on va dire royaume du Nord. Parce qu'en fait, quand on parle d'Israël, on parle d'Israël dans l'ensemble, mais aujourd'hui, j'essaie de parler de royaume du Nord, ok, parce que c'est surtout au royaume du Nord que Amos s'adresse. À l'époque d'Amos, le roi qui était présent était le roi Jéroboam II. Donc pas le roi Jéroboam I, qui est celui qui est à l'origine de la séparation entre Rome du Nord et Rome du Sud. Vous savez, le fils de Salomon. Salomon était le dernier roi de l'Empire unifié, uni d'Israël. Et après, il y a eu une séparation entre le Royaume du Sud et Rome du Nord. Rome du Nord avec la capitale Samarie, Rome du Sud avec la capitale Jérusalem. Donc Royaume du Nord, c'était Jéroboam I. Et Royaume du Sud, c'était Roboam, le fils de Salomon. Donc Jéroboam, ici, on n'est pas du tout dans le même Jéroboam. On est dans Jéroboam 2. Et on est en 760 avant Jésus-Christ. Et pour un repère, David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est 240 ans après David. Et Jéroboam 2, sachez que c'était le dernier grand roi de la dynastie du royaume du Nord. C'est vraiment le dernier roi qui a régné aussi longtemps. Il a régné 41 ans. Vous imaginez 41 ans. Combien de mandats il faudrait ? 41 ans. Et c'est le dernier grand roi qui aura jusqu'à la fin du royaume d'Israël qui va survenir en 722. Le royaume du Nord. Une autre chose à savoir par rapport au contexte, avant de commencer vraiment, on est dans un contexte de prospérité. Dieu était adoré, mais dans deux sanctuaires qui étaient Dan et Bethel, sous forme de veaux d'or dans des temples. Et cette prospérité, elle profitait surtout, en fait, aux riches qui étaient corrompus, qui pratiquaient l'injustice, et pas du tout aux pauvres qui étaient opprimés. La semaine dernière, Pasteur a prêché sur Amos 4. Et face à tous ces péchés que ce royaume du Nord a fait, il annonçait des catastrophes. La famine qui devait venir, la sécheresse, le vent brûlant, la peste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une phrase que Pasteur Nguyen a dite. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Puis au verset 13, et c'était la fin de son message, son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Nous avons terminé par le nom de l'Éternel la semaine dernière, et aujourd'hui je propose de commencer avec le nom de l'Éternel. Tu peux passer ? Encore ? Donc, on va voir dans un premier temps qui est Dieu, le nom de l'Éternel. Ensuite, on verra dans un deuxième temps la désobéissance et le jugement du peuple de Dieu. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons la repentance du peuple de Dieu. J'ai volontairement choisi de ne pas aborder verset par verset parce qu'il y a plusieurs idées qui se rejoignent. Et vraiment à partir de qui est Dieu, en fait, tout simplement, on va voir à quel point son peuple désobéit et à quel point Dieu, à cause de la sainteté, va juger ce peuple et après voir que ce peuple est appelé à la repentance. Et on va voir à quel point ça, en fait, ça nous parle aujourd'hui, à quel point, en fait, ce passage, ce message est pour nous. Le nom de l'Éternel. Alors, on parle souvent du nom de l'Éternel en rapport avec qui est Dieu, en fait, sa sainteté, son identité. Et dans le texte, on dit « Son nom est l'Éternel, Dieu de l'univers ». Amos 4, verset 13. Ça, c'était le dernier passage sur lequel Pasteur Nguyen a prêché. On voit dedans toute sa puissance, toute sa souveraineté, le fait qu'il contrôle toute chose. Et on a vu aussi qu'il était créateur des étoiles, créateur de Pléiade, d'Orion. Et en fait, certaines personnes adoraient ces astres. Mais Amos, il était en train de dire, n'adorez pas les astres, adorez celui qui a créé les étoiles, adorez celui qui a créé les astres. Amos parle aussi de lumière du monde, de changer les ténèbres en aurore. Changer les ténèbres en aurore, c'est ce que Jésus a fait par sa mort. Il a changé les ténèbres en lumière de manière si intense que la mort n'a pu le retenir. Si vous pouvez prendre dans vos Bibles, on peut ouvrir dans nos Bibles, Éphésiens chapitre 5. Les ténèbres en lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Les ténèbres en lumière. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Dieu change les ténèbres en aurore. Dieu nous a changés en lumière. Dieu a également le pouvoir sur le temps, dans ces versets 8 et 9. Il peut obscurcir le jour pour en faire la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la crucifixion de Jésus. Dieu a plongé le monde dans les ténèbres pendant 3 heures, de midi à 15 heures. Il a obscurci le jour pour en faire la nuit. On parle aussi du pouvoir sur les eaux. Prendre l'eau de la mer pour la verser à la surface de la terre, ce que Dieu a fait à l'Exode, quand il a permis à Moïse d'ouvrir la mer en deux pour que les Israélites passent de l'autre côté du rivage. Verset 9 aussi parle de la condamnation des hommes forts, non seulement eux, mais aussi leur forteresse. Eh bien, on sait que dans l'Exode, après la traversée de la mer Rouge, Dieu a condamné le Pharaon et ses hommes qui semblaient plus forts que les Israélites, qui eux semblaient plus faibles, avec la puissance de la mer. Ça me fait aussi penser à ce passage de 2 Corinthiens 12 qu'on peut prendre ensemble. 2 Corinthiens chapitre 12 qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà, c'est notre Dieu. Qui est Dieu ? C'est le nom de l'Éternel. Mais alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Qu'est-ce que ça change dans notre vie ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça fait de savoir que Dieu est Dieu ? Qu'est-ce que ça fait de savoir que... Qui est Dieu, en fait ? Connaître Dieu, qui est Dieu ? Qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Qui est Dieu pour toi ? Pose-toi cette question. Qui est Dieu pour toi ? Qu'est-ce que ça change, en fait, de connaître qui est Dieu ? Moi, je crois que ça change, si je connais Dieu, ça change toute ma façon de voir les choses dans ma vie. Ça change toute ma façon de voir le monde, de considérer les choses de la vie. Et on a un super passage dans Colossiens 3, que je vous invite à prendre ensemble. Colossiens 3, verset 23. Je vous laisse lire dans vos Bibles. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, okay, tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il faut savoir que ce passage, il a été écrit dans un contexte où Paul établissait les relations qui devaient avoir lieu entre des maîtres et des esclaves dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, on pourrait le retranscrire dans le contexte de un patron avec son employé. Alors, si on se place dans ce contexte-là, lorsque tu connais qui est Dieu, tu vas faire ton travail de tout ton cœur pour Dieu, parce que c'est Dieu ton véritable patron. T'es pas en train juste de bosser pour ton boss, mais t'es en train de bosser pour le patron, le PDG de l'univers. Et quand tu te rends compte de ça, ça change totalement ta façon de voir les choses. Ton patron, il a été placé au-dessus de toi pour un temps par Dieu. Mais au fond, qui va rester ? Est-ce que c'est ton patron ou c'est Dieu qui va rester ? Ben, c'est Dieu, en fait. Donc, tu peux travailler dans ton travail, tu peux chercher l'excellence pour Dieu. Et parce que tu vas chercher pour Dieu, ben, tu vas respecter et obéir à ton patron. Et ce même principe, ça applique aussi à des personnes qui sont femme au foyer ou homme au foyer aussi, qui est en soi-même un travail, en fait. Est-ce que tu prends soin de ta maison ? Est-ce que tu élèves tes enfants ? Peut-être tu le fais un peu pour ton mari, tu le fais ou pour ta femme, peut-être tu le fais pour tes enfants. Mais si tu le faisais pour Dieu, est-ce que ça changerait pas ta manière de réagir aussi ? Idem, de la même façon, si tu es étudiant, tu es au lycée, tu es collégien, est-ce que tu travailles tes cours pour faire plaisir à ton prof, pour avoir une bonne note et être bien vu, et être bien vu par tes parents parce que tu as ramené la meilleure note de la classe ? Ou est-ce que tu le fais pour Dieu ? Tu poursuis l'excellence pour Dieu, parce que tu connais qui est Dieu. Et tout ça, ce ne sont que des infimes exemples de ce que ça change de connaître qui est Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite à vraiment lire des livres sur qui est Dieu, connaître Dieu, qui est Dieu. Alors, je vous ai parlé de ces questions un peu, hein, de qu'est-ce que ça change dans mon travail, dans ma vie de famille, dans mes études. Parce qu'en fait, après le culte, il va y avoir un groupe de discussion. On va pouvoir justement échanger. Donc, l'équipe relation va animer ces groupes. On va pouvoir partager sur un peu ces questions. Qu'est-ce que ça change dans ma vie, en fait? Voilà. Donc, on a vu le nom de l'Éternel. On a vu qu'à cause de qui est Dieu, il ne peut pas laisser impuni le péché du peuple. Et donc, il va juger le peuple. Et justement, on va voir à quel point le peuple a désobéi et à quel point Dieu va les juger. Donc, grand 2, la désobéissance et le jugement du peuple de Dieu. Donc, d'abord la désobéissance, après le jugement. Désobéissance. Ils n'ont pas respecté le nom de l'Éternel, le Saint, le Grand Je Suis. Et à la place, ils ont péché. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Qu'est-ce qui est reproché, si je dois résumer, qu'est-ce qui est reproché ? C'est l'injustice des hommes. C'est le mépris pour l'autorité et la vérité. C'est l'exploitation des faibles. Ce sont des crimes. Ce sont des pots de vin, de la corruption. Waouh ! Mais ça existe encore chez nous aujourd'hui. Et c'est quoi la conséquence de tout ça, nous dit Amos ? Même le sage se tait, car les temps sont mauvais. Même le sage se tait. Il y a la corruption, il y a des pots de vin, il y a de l'injustice, et le sage se tait. Waouh ! On voit que le péché a déteint sur lui. Même le sage a été touché par l'injustice, par la corruption. Et probablement qu'il a reçu un pot de vin pour se taire face à cette injustice. Et toi alors dans ta vie ? Faut se rappeler aussi que là, Amos, il parle au peuple de Dieu. Certes, le royaume du Nord, mais le peuple de Dieu quand même. Et ce texte peut vraiment s'appliquer à notre vie. Le peuple d'Israël était destiné à être un exemple, une lumière pour les peuples autour, on a vu sur la carte. Mais au contraire, alors même qu'ils étaient dans une situation où ils étaient prospères, dans une prospérité absolue, ils désobéissaient au commandement de Dieu. Et la question pour nous, mais est-ce que, en ce moment, dans notre vie, est-ce que nous ne sommes pas en train de désobéir à certains commandements de Dieu, et ce, de manière récurrente? Est-ce que, dans notre vie, on n'est pas en train de désobéir à Dieu? Par exemple, dans mon travail. Si je suis sous l'ordre d'un responsable, si j'ai quelqu'un, un patron, un directeur au-dessus de moi, est-ce que je méprise son autorité? On peut lire ensemble Éphésiens, chapitre 6, qui parle justement de l'autorité envers... qu'on est appelé à respecter en tant que chrétien. Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 8. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Est-ce que je méprise l'autorité de mon manager? Ou est-ce que je prie pour lui? Est-ce que je respecte? Est-ce que je me soumets? Et dans le cas contraire, si l'un d'entre vous est responsable d'une ou plusieurs personnes, est-ce que tu exploites ton employé, ton collaborateur, sous prétexte qu'il est en dessous de toi, qu'il est sous tes ordres? Comment est-ce que tu communiques avec lui? Est-ce que tu lui parles mal? Ou est-ce que tu parles avec un profond respect comme un être humain, en fait. Et là, restez à Éphésiens 6, verset 9, Paul nous dit « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. » Donc, on a vu la désobéissance du peuple de Dieu. Maintenant, voyons le jugement de Dieu. Et on a commencé par une lecture, donc si tu peux remettre, Bernard, versets 1 à 3. Merci beaucoup. C'était une complainte qui était chantée, ou en tout cas qui était prophétisée par Amos. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, communauté d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, et personne ne la relève. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui en mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la communauté d'Israël. Cette prophétie était annoncée par Amos en moins 760, mais elle va se réaliser en 722, c'est-à-dire 40 ans, presque 40 ans plus tard. Et en fait, à l'époque, ça pouvait être fou, parce que les gens à qui Amos parlait, c'est des gens comme nous qui étaient peut-être dans leur prospérité, ils faisaient fructifier leurs affaires, petit pot de vin par là, on fait de l'argent en black, etc. Et du coup, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, n'importe quoi, regarde, 5 ans plus tard, ça se passe toujours pas. 10 ans plus tard, ça se passe toujours pas. Moi, j'imagine aussi Noé qui construisait l'arche et on lui disait, mais tu dois être fou, Noé. Mais il a chanté cette complainte, mais tellement de manière absolue, comme si la communauté d'Israël était déjà détruite, en fait. c'est vraiment une prophétie qui vient que de l'Éternel. C'est que la manière dont il le dit, c'est « ça y est, c'est fait ». C'est proclamé, ça va se passer comme ça. Et comment ça va se passer? Il donne des indications. Ça va passer par un échec militaire. Il y avait 1000 hommes, il ne restera plus que 100. Il y avait 100 hommes, il ne restera plus que 10. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à des jeux de stratégie sur l'ordinateur. Quand vous êtes 100 contre 100 et qu'à la fin, il ne reste plus que 10, vous êtes vraiment mal barré. Voilà. Donc, c'est pareil si vous jouez à Risk ou à d'autres jeux de société, mais juste pour vous dire, voilà, il ne restera vraiment plus rien. 10%, c'est vraiment rien. Donc cette destruction du peuple du Nord va se faire à travers la guerre. Et c'est vraiment ce qui va se passer en fait en 722 Jésus-Christ, en moins 722 avant Jésus-Christ, pardon, quand les Assyriens vont envahir le royaume du Nord. Comment va se faire ce jugement? Le verset 6b. Alors B, c'est pour dire que c'est la deuxième partie du verset 6, parce que on n'a peut-être pas assez découpé les versets si on a commencé à découper des versets. Et verset 6b nous dit que ça va se faire avec un feu qui dévorera la famille de Joseph, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Donc quand on parle de la famille de Joseph, c'est les enfants de Joseph, donc Manassé et Ephraïm qui sont en fait les tribus principales du royaume du Nord. Donc quand on parle de la famille de Joseph, on parle du royaume du Nord. Et donc là, on parle d'un feu qui ne s'éteint pas. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'il y a 2 mois qu'on a parlé à des différents peuples, avec les jugements de Dieu envers ces différents peuples. On avait commencé par Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon et Moab, et même Juda. Et là, ça y est, on parle à nouveau du feu qui va embraser, le feu du jugement de Dieu. Et on revient en fait à tout le début de Amos chapitre 1, verset 2, à cette image du lion. Alors, c'est pas le lion comme dans Le Roi Lion qui est sorti cette semaine, mais c'est vraiment l'idée d'un jugement en fait qui est fait. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Ce rugissement, c'est le jugement de Dieu, même envers son peuple. Et nous aurons aussi, nous aussi, un jugement à affronter. Le jugement de Dieu se manifeste aussi à travers le verset 11. Ils ont construit des maisons en pierre de taille, mais ils n'habiteront pas dedans. Ils vont faire du vin, mais ils ne pourront pas le boire. Et ça sera la conséquence directe de la déportation. Vu qu'ils seront déportés ou détruits, ils ne pourront pas habiter leur maison, ils ne pourront pas boire leur propre vin. Qui sème le vent, récolte la tempête. Ils ont semé le vent, ils ont récolté la tempête. Et je ne sais pas si vous saviez, mais c'est dans la Bible en fait. Qui sème le vent, récolte la tempête, c'est Osée 8, verset 7. Voilà, pour ceux qui veulent sortir ça dans une discussion avec vos amis. Mais alors le jugement de Dieu, dans ta vie. Est-ce que ça te parle, cette notion du jugement de Dieu? Est-ce que ça te parle, cette notion de feu dévorant? Ici, dans ce contexte précis, le feu est vraiment un symbole de jugement. Et si tu as déjà senti ce jugement de Dieu dans ta vie, comment est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie? Oui, suite à nos désobéissances en tant que peuple de Dieu, le jugement de Dieu s'abat sur nous. Cependant, il arrive parfois que Dieu retient son jugement pour nous laisser le temps de nous repentir. De la même façon que là, il leur a laissé près de 40 ans pour changer. Mais ils n'ont pas changé. Il nous laisse une période de grâce, comme il nous en laisse encore une aujourd'hui. Et voyons, pour finir, ce que le texte nous dit sur la repentance qui est possible pour le peuple de Dieu. Donc, grand 3, la repentance du peuple de Dieu. Et dans cette notion de repentance, on va d'abord chercher, voir deux choses. On va essentiellement voir deux choses, pardon. La première, c'est de ne pas chercher dans Bethel, Beersheba, Gilgal, et de ne pas chercher le mal. Et du coup, la deuxième chose, c'est de chercher Dieu et le bien. Ne pas chercher dans Bethel, Beersheba, Gilgal. Alors, ne pas chercher le mal, c'est ne pas désobéir à Dieu. Donc, on a déjà vu ce que c'était la désobéissance à Dieu, je ne vais pas revenir dessus. Le peuple de Dieu est appelé à se repentir. Se repentir, c'est-à-dire changer complètement de direction. Détester le mal, ne pas chercher le mal. Du coup, ça nous encourage à chercher, changer de direction. J'étais dans un sens comme ça, je suis appelé à changer de direction et à me tourner vers la direction de la volonté de Dieu. Et ce changement de direction ne peut avoir lieu que par le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. On peut mettre en place des disciplines, c'est notre responsabilité. Mais c'est Dieu qui change la direction. Et donc, on va voir un peu plus en détail pourquoi est-ce que Amos nous parle de Bethel, de Gilgal et de Beersheba. Bethel, Gilgal et Beersheba. Ceux qui ont fait les groupes de maison, vous avez de l'avance sur les autres parce que on a étudié Genèse, en tout cas il y a quelques mois, et on parle de Beersheba, on parle de Bethel. Bon, on parle pas de Gilgal, mais... Donc sachez que ces trois lieux, c'était des lieux qui représentaient aussi la présence de Dieu et des lieux où des promesses de Dieu ont été faites à certains hommes de Dieu. Et en moins 760 avant Jésus-Christ, ces lieux sont devenus des sanctuaires, des lieux de pèlerinage. Donc si tu peux remettre, s'il te plaît, la carte où j'ai entouré trois ronds rouges. Ouais, parfait. Donc, Bethel. Bethel, on le voit, celui qui est le plus haut, ok ? C'est le cercle le plus haut, donc c'est dans le royaume du Nord. Gilgal, c'est à côté de Jéricho, c'est aussi le royaume du Nord. Et Beersheba ou Beersheba, ça dépend des transcriptions, en fait, se trouve dans la Judée, se trouve dans le royaume de Juda. Donc Bethel, Beersheba et Gilgal, c'était des lieux où des promesses de Dieu avaient été faites, mais les promesses de Dieu ne s'étaient pas accomplies à cause du péché du peuple, c'est ce qu'on va voir. Et on va voir aussi que recevoir une promesse de Dieu est différent de s'approprier cette promesse. Je répète, recevoir une promesse de Dieu est différent de s'approprier une promesse. Le peuple de Dieu, du Nord, là, ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas obtenu son héritage, et on va voir ça plus précisément. Bethel. Bethel, c'était là pour dire que c'était une ville qui symbolisait la présence de Dieu. Ça voulait dire Dieu est là. Et dans Genèse 28, c'est l'épisode où Jacob voit l'échelle avec les anges qui montent et descendent entre la terre et le ciel. Et puis dans Genèse 35, au même endroit, Jacob revient, vous savez, de son voyage, et Dieu parle à Jacob. Jacob reçoit la promesse de Dieu qu'il va être une grande nation qui sera dans le pays de Dieu dans Genèse 35. C'était vraiment le lieu de la présence de Dieu. Beersheba, qui est tout au sud, c'était un endroit où les gens étaient prêts à faire un pèlerinage pour traverser la Judée, pour aller jusque là-bas, pour soi-disant aller adorer Dieu. Et ça symbolisait « Dieu est avec vous ». C'était la paix de Dieu. Beersheba, c'était quoi dans la Bible ? C'était la première fois qu'on le mentionne, c'était quand Abraham, vous savez, se dispute avec des bergers de Abimélec. Puis à un moment donné, ils font une alliance où Abimélec lui dit « Je reconnais que Dieu est avec toi ». Genèse 21. Ensuite, Isaac, il reçoit une promesse de Dieu au même endroit, à Beersheba. « N'aie pas peur, ta descendance sera nombreuse. » Et troisième, Jacob, sur le chemin de l'Égypte, quand il sait que Joseph, en fait, est encore vivant, il reçoit cette promesse de Dieu, « N'aie pas peur. » Dieu descend avec lui en Égypte. « N'aie pas peur. » La paix de Dieu. Et enfin, pour finir, Gilgal, juste à côté de Jéricho, ça symbolisait l'héritage de Dieu et la possession de la terre promise par Dieu. Alors, c'est pas dans Genèse, mais c'est dans Josué. En fait, c'est le premier lieu où les Israélites campaient pour commémorer déjà la traversée du Jourdain. Vous savez, ils ont traversé aussi le Jourdain à sec. Ils ont traversé la mer Rouge à sec, mais ils ont aussi traversé le Jourdain à sec dans Josué 4. C'est aussi le lieu où a été consacré le peuple de Dieu comme nouveau peuple de l'Alliance. Le peuple d'Israël, c'était dans Josué 5. C'était aussi la base militaire, en fait, pour les conquêtes militaires qui vont se faire dans le livre de Josué. Et enfin, c'est à cet endroit-là, Gilgal, que Saül a été consacré premier roi d'Israël unifié. Et le problème du royaume du Nord, c'est que le peuple de Dieu voyait ces lieux, ces trois lieux, comme, en fait, de la superstition, des finalités en soi. Alors que ces lieux, en fait, n'étaient que des instruments de Dieu qui étaient utilisés par Dieu pour pointer vers quelque chose qui était encore plus important. Ils se sont dit, ces croyants, que ok, on va dans ces lieux, on continue à pratiquer l'injustice, mais allez, je vais faire mon pèlerinage, peut-être, probablement une fois par an, d'après les commentaires. Au moins, ça leur assure la prospérité dans laquelle ils vivaient. Rappelez-vous que cette prospérité, elle va durer encore plusieurs années. Donc, ils pouvaient se dire, bah, ah, ça marche, je vais là-bas, j'adore Dieu, soi-disant Dieu, hein. Et puis ensuite, je reviens, ah, je suis prospère, donc ça marche. Mais est-ce qu'on serait pas pareil aussi parfois? On va dans certains lieux, dans certaines églises, on va donner à l'offrande, parce que le pasteur a dit qu'il fallait donner à l'offrande, mais est-ce qu'on ne pratique pas l'injustice à côté dans la semaine? Dieu avertit le peuple à travers Amos. Ne mettez pas votre confiance dans ces sanctuaires, ce ne sont pas ces sanctuaires qui vont vous sauver. Ils sont appelés à mettre leur confiance en Dieu lui-même, à se repentir, à changer de direction. Ne pas adorer les lieux où est apparu Dieu, mais adorer Dieu lui-même. On a vu comment ne pas chercher le mal, ne pas chercher Bethel, Beersheba, Gilgal, et maintenant on va voir comment chercher Dieu et chercher le bien. Donc une fois qu'on a changé de direction, ce qu'on appelle la repentance, à ce moment-là, oui, on peut chercher Dieu. On aspire à Dieu, on soupire après Dieu. Beaucoup de psaumes nous parlent de rechercher un refuge en Dieu, de chercher Dieu lui-même, de chercher la face de Dieu. Et je vais en lire que deux. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Aspirez à Dieu. Cherchez Dieu. Mais également cherchez le bien. Et chercher le bien, c'était lié aussi à la notion de faire régner la justice. Donc, si nous sommes le peuple de Dieu que Dieu a choisi, on a chanté « Tu m'as choisi », forcément, nous voudrons faire le bien pour respecter au commandement de Dieu. Et nous chercherons aussi à faire régner la justice de Dieu. Et cette notion de justice, elle est centrale dans le livre d'Amos. Malheureusement, elle n'est plus présente dans le royaume du Nord, parce qu'on voit que même le sage se tait, car les jours sont mauvais. Le peuple de Dieu est appelé à aller à l'encontre de l'injustice, à dénoncer la corruption, à respecter l'autorité et la vérité, et à aider le faible. Et toutes ces choses sont déjà dans la parole de Dieu. Rien que dans le Pentateuque, il y a déjà toutes ces notions-là. Il suffit de revenir aux sources, revenir aux Écritures. Et en les lisant, en les comprenant, oui, nous allons participer à faire régner cette véritable justice de Dieu. Et non une justice de façade qui cache une société totalement au service de l'injustice. Et peut-être c'est le cas dans certains pays corrompus, dans d'autres parties du globe terrestre. Alors, quelles sont les conséquences de chercher Dieu et de chercher le bien? Eh bien, le texte nous dit que nous vivrons et que Dieu sera avec nous. Donc ce n'est pas Bethel qui va assurer la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Beersheba qui va assurer la paix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Gilgal qui va assurer la possession de la terre promise, c'est Dieu lui-même. Une autre conséquence, c'est que peut-être, nous dit le texte, peut-être Dieu fera grâce. Parce que quand bien même nous faisons notre part et que nous cherchons le bien, n'oublions pas que Dieu est un Dieu qui est au contrôle, qui reste souverain. Donc oui, d'un côté, les Israélites faisaient le bien, pouvaient provoquer quelque part, peut-être, la grâce de Dieu. Mais Dieu reste au contrôle. Et on verra par la suite que cela n'arrivera pas, parce que le peuple va continuer à désobéir, malgré ses prophéties, malgré ses avertissements d'Amos. Et on peut voir vraiment ce lien avec le Nouveau Testament. Parce qu'à travers la vie parfaite de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, Dieu a réglé une fois pour toutes le problème du péché et de l'injustice. Et cette repentance, ce changement de direction se fait en profondeur. Nous avons péché, nous reconnaissons notre péché. Nous demandons pardon pour ce péché. Et nous sommes pardonnés de nos péchés. Et la première fois que ça se passe, c'est ce qu'on appelle la conversion. Mais ça ne s'arrête pas juste au moment de la conversion et après on est clean. Tous les jours, on est appelé à avoir ce processus de repentance, de transformation. On appelle ça aussi la sanctification. On a notre cas semblable dans Éphésiens 5, versets 15 à 16, si on peut ouvrir dans nos Bibles, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Attention à notre conduite. Comportez comme des sages. Comme des sages qui ne se taisent pas. Pas comme des fous. Les Israélites étaient des fous dans ce cas-là. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et je pense que Paul, quand il était à Éphèse, il avait vu les injustices, le mensonge, la rébellion contre les lois, l'orgueil, l'exploitation des faibles, la corruption, les pots de vin à Éphèse. Il a vu tout ça. Et c'est pour ça qu'il va reprendre cette expression dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens. Il va dire « les jours sont mauvais ». Les mêmes jours qu'en moins 760 se reproduisent dans le premier siècle après Jésus-Christ. Et ces jours étant mauvais, dit aux chrétiens, ok, ces jours sont mauvais, mais vous ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Vous rachetez le temps, agissez, réagissez. C'est votre responsabilité. Donc il n'est plus le temps pour le sage de se taire, mais il est temps pour le sage de parler et d'agir, de réagir. De la même façon, le peuple de Dieu, nous en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à être sages et à agir. Nous sommes appelés à nous attacher aux réalités célestes et non aux réalités terrestres, dans Colossiens. Alors le lien avec notre vie, est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas dans ta propre vie des sanctuaires, des habitudes, tes propres sanctuaires, tes propres habitudes ? Peut-être que pour toi, l'église, c'est comme un sanctuaire, et que le dimanche te suffit pour te nourrir spirituellement. Alors oui, certes, le culte est un magnifique moyen d'adorer Dieu, on a chanté des magnifiques chants de louange, en communauté, c'est super pour être enseigné, mais ça ne peut pas remplacer une foi fervente, régulière, quotidienne, mise en pratique dans la vie de chacun. N'adore pas l'église, n'adore pas le sanctuaire, le lieu où on se réunit, comme le faisaient les Israélites, mais adore Dieu. N'adore pas l'église, mais adore Dieu. On peut se poser la question aussi, c'est comment est-ce que je peux contribuer à chercher Dieu, à chercher le bien et non le mal, à faire régner la justice là où Dieu m'a placé. Et on va voir ça pour terminer dans quatre sphères de notre société, notre travail, notre maison, notre école ou notre église. Au travail, on peut chercher le bien aussi pour nos collègues. On peut les bénir, on peut prier pour eux. Moi, depuis que je suis revenu depuis deux semaines des Philippines, j'essaye quelques fois le matin de venir plus tôt, donc vers 8h, 8h30 au travail. Et je prie sur les différents sièges du pôle que je dirige. Et ça vous fait rire peut-être, mais je prie qu'il y ait une atmosphère spirituelle qui soit saine, qui soit propice à la paix dans le travail. Par exemple, faire régner la justice. Peut-être que dans ton travail, tu as été témoin d'une situation qui n'a pas été correctement rapportée. Il y a eu des médisances, des personnes qui ont dit « oui, lui, il a dit ça ». Toi, t'es pas concerné, mais tu es appelé à dire la vérité. Ça peut être tentant de basculer toi aussi dans la médisance ou de prendre parti, mais tu te dois de dire la vérité. Ok, dans le travail. Ensuite, dans la maison. Bah, chercher le bien, ça peut être chercher le bien de nos enfants, de notre époux, de notre épouse, de nos parents, de notre famille. Faire régner la justice, bah, ça peut être le cas surtout quand on a des enfants. Et en plus, si on sait faire régner la justice auprès de nos enfants dans notre propre maison, ça aura deux impacts positifs. Le premier, nous pourrons aussi l'appliquer en dehors de la maison. On s'est entraîné un peu à la maison, on applique la justice à la maison. On va le faire aussi dans les autres endroits. Et aussi notre famille, nos enfants vont être influencés pour aussi appliquer cette justice là où ils sont. Je crois vraiment que la maison, notre foyer, c'est un formidable lieu d'entraînement, de formation pour nous former nous-mêmes et les nôtres. À l'école, on peut chercher le bien de nos camarades, de nos professeurs. On peut prier pour des bénédictions pour eux. On peut aussi faire régner la justice. Alors moi, je pense au cas précis du délégué de classe, vous savez, celui qui est censé tout rapporter au professeur, au conseil de classe. Eh bien, le délégué de classe doit correctement et fidèlement rapporter les faits au professeur. Voilà. Ça, c'est une application. Donc, Clark, si tu es délégué de classe, tu es censé apporter les choses fidèlement et correctement. Et enfin, dans l'église, pour terminer, chercher le bien de mes frères et sœurs et faire régner la justice dans l'église, eh bien, chercher le bien dans l'église, on peut bénir, prendre des nouvelles, aider, prier pour nos frères et sœurs. Faire régner la justice, en tant que responsable d'église, on se doit de faire régner la justice, prendre soin du troupeau, dire la vérité. Et ce n'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, la Bible nous demande en priorité, entre chrétiens, de prendre soin les uns des autres, entre chrétiens, de confesser nos péchés les uns aux autres, entre chrétiens, de porter nos fardeaux les uns des autres, entre chrétiens, de nous pardonner les uns les autres. Et si vous réalisez toutes les lettres de Paul ou de Pierre, souvent ce sont dans des contextes d'église locale. Donc c'est adressé à des chrétiens qui étaient appelés à se confesser les péchés les uns aux autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il parlait d'abord à des chrétiens? Eh bien, j'ai trouvé quatre raisons. La première, c'est que ça serait très difficile de confesser mes péchés à un incroyant, même s'il est de ma famille ou s'il est un ami, parce que déjà c'est une charge lourde pour la personne, et en fait elle pourra pas vraiment m'apporter une aide. Alors, peut-être elle va m'écouter, mais elle pourrait même pas prier pour moi. Et si je le fais avec des chrétiens, eh bien, je suis en train d'obéir en fait et d'appliquer la parole de Dieu. Paul nous appelle à confesser nos péchés les uns aux autres. Ben, je le fais et j'obéis à la parole de Dieu. J'obéis à Dieu en fait. Et je suis en phase avec ce que demande le Saint-Esprit. Troisième raison, de la même façon que la maison, l'Église aussi, c'est un centre de formation. Je le vois vraiment comme un camp d'entraînement pour appliquer la parole de Dieu. Ça se limite pas juste au culte dans lequel on est aujourd'hui. L'Église, c'est le corps de Christ partout où est le corps de Christ. Et on voit dans Éphésiens 4, verset 11, que les dons qui ont été donnés à certains hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ces dons sont donnés à certains responsables pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, en gros, ces personnes clés, que sont les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, sont appelés à former l'Église, à les édifier, à former les saints. Et en plus, quand j'applique ces versets comme pardonner les uns aux autres, je pardonne quelqu'un qui m'a fait du mal dans l'église, ben, ça me prépare aussi à le faire avec des non-croyants. Je serai plus à même ensuite de pardonner aussi un incroyant, de prendre soin des incroyants. Donc, je disais en priorité, ça veut dire qu'il faut pas le faire avec les non-croyants. C'est la nuance. Donc, pour conclure, si tu peux repasser à la slide avec le plan. Nous avons vu l'identité de Dieu, le nom de Dieu. Nous avons vu que ce nom est tellement saint. La personne de Dieu est sainte. Nous sommes appelés à connaître Dieu. Et ça change notre façon de voir et de nous comporter. Malheureusement, le peuple de Dieu, dans le passé, a désobéi et s'en est suivi un jugement. Mais Dieu fait grâce encore et permet à ce peuple de se repentir, de changer de direction. L'Évangile nous fait changer de direction et de nous permettre d'appliquer vraiment, en fait, la justice de Dieu, là où Dieu m'a placé. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout cela, c'est Jésus qui l'a fait aussi. Dieu était tellement saint. Nous avons tellement désobéi à Dieu que Dieu a été obligé de nous juger. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ, mort sur une croix. Et si vous devez retenir une chose, c'est peut-être que ça, en fait. Nous sommes séparés de Dieu. Nous avons tous commis une faute qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Il y a une cassure. Et en fait, Dieu nous a donné Jésus-Christ, qui a vécu une vie parfaite, qui est mort à la croix pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour qu'on croie en lui, qu'on ait de nouveau cette relation avec lui, à condition que je change de direction et que je reconnaisse que j'ai besoin de lui, que je suis ce qu'on appelle pécheur, que j'ai des fautes, que j'ai une nature qui est mauvaise et que j'ai besoin de Dieu, qui va par son Saint-Esprit transformer mon cœur pour me faire de moi une nouvelle créature. Et pour terminer, je propose de ce verset, Matthieu 6, verset 33, qui résume vraiment ce message. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ta parole a été proclamée, Seigneur. Merci parce que nous avons pu voir ta sainteté, ton identité. Tu es le Dieu éternel, Seigneur. Seigneur, nous avons désobéi, comme les Israélites. Nous savons qu'il y a un jugement qui va venir, mais nous savons aussi que tant que nous sommes sur cette terre, Seigneur, nous pouvons nous repentir. Et je te prie pour les personnes ici qui ont peut-être jamais fait ce pas, et je te prie que tu touches leur cœur maintenant, que tu touches leur cœur, qu'elles ne repartent pas comme elles sont venues, mais que vraiment elles puissent se poser la question, si je meurs ce soir, où est-ce que je vais ? Si je meurs ce soir, où est-ce que je vais ? Et Seigneur, que tu puisses leur montrer que sans toi, ils seront sans toi, Seigneur. Mais avec toi, ce sera tellement... On sera sauvés, Seigneur. On sera avec toi. Et ce sera tellement magnifique, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie pour que ta parole fasse son effet aujourd'hui, maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie pour que tu aides ton peuple aussi, si certains ici sont dans des péchés récurrents, Seigneur, ou dans un péché actuellement, que tu les amènes à vraiment se repentir, à changer de direction et à se tourner vers toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui attend, qui restaure et qui nous libère, comme on l'a chanté, Seigneur. Seigneur, viens encore parmi nous aujourd'hui et je te prie en son nom, Jésus. Amen.